En 1993, il y a tout juste 18 ans, Solène Bardet débarque presque par hasard chez les Himba, un peuple mythique d'Afrique australe qui l'adopte. Géographe, ethnographe et documentariste, elle leur consacre ses recherches et ses écrits, avec à la clé une association, un film et trois livres, dont le dernier, intitulé « Les Veilleuses », vient de paraître aux éditions Robert Laffont.
Alors, « Les Veilleuses », c'est l'histoire de Tuli Pamwe. Tuli Pamwe en Himba, ça veut dire « tous ensemble », qui a une mère Himba. Alors, il faut savoir que les Himba sont un sous-groupe des Rero qui ont été génocidés à 80% par les Allemands au début du XXe siècle.
C'est le premier génocide. Les Allemands ont fait leurs expérimentations sur les Rero.
Tout à fait. Donc, ils sont aussi porteurs de cette mémoire-là. Et par son père, elle est franco-allemande. Et donc, elle va découvrir qu'elle est à la fois d'une lignée de génocidés et de génocidaires. Et en quelques mots, c'est tout son parcours pour aller au-delà des antagonismes de ces deux filiations, des tiraillements de ces deux mondes qui n'ont pas grand-chose à voir, mais aussi de ces blessures de l'histoire de part et d'autre.
Ça, c'est votre dernier livre qui vient tout juste de paraître. Et le premier, c'était quand ?
Alors le premier, c'est un récit de voyage qui s'appelle « Pieds nus sur la terre rouge », qui est sorti en 1998 chez Robert Laffont, comme « Les Veilleuses » d'ailleurs. Qui lui raconte en fait le premier de mes voyages chez les Himba en 93, quand j'avais 18 ans. Premier voyage qui a été une vraie initiation, une vraie transformation pour moi, à un moment aussi où la société Himba commençait tout juste à s'ouvrir. Et pendant ces 6 mois, ce que je raconte dans le livre, c'est aussi les premiers missionnaires, les premiers trafiquants d'alcool, les premiers projets de développement. Voilà. En fait, de 1920 à 1990-92, qui était la période de l'occupation sud-africaine, les Himba ont vécu obligés de vivre en autarcie dans leur région. C'était le statut des Bantoustans. Ils n'avaient pas le droit de quitter leur région. Personne n'avait le droit d'entrer. C'est aussi pour ça qu'ils sont restés aussi traditionnels, en fait. C'est qu'ils n'ont pas eu le choix. Moi, quand je suis arrivée là-bas en 93, la première fois, j'ai rencontré des vieux Himba qui avaient 80-90 ans, qui avaient voyagé en Angola, qui parlaient plusieurs langues, et puis des jeunes de 10 ans qui n'avaient jamais vu de blanc. Voilà, en fait, ils étaient beaucoup plus intégrés dans l'économie de marché avant 1920, avant la période sud-africaine, que quand je suis arrivée là-bas en 93. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'arriver juste au moment où la région s'ouvrait.
Votre deuxième livre est illustré, c'est une bande dessinée.
C'est une sorte d'ovni entre BD, carnet de voyage, que j'ai réalisé avec le dessinateur Simon Hureau, et qui s'intitule Rouge Himba, un gros pavé de 312 pages, 1,3 kg, et dans lequel j'ai voulu recenser en fait tout ce que moi j'avais appris des Himba depuis une vingtaine d'années. Donc c'est un livre dans lequel il y a un fil directeur, hein, qui est le premier voyage que je fais sur place avec ma fille qui avait 6 mois à l'époque et avec le dessinateur. Mais au fil de ce voyage, en fait, j'y ai intégré des interviews, des contes, des légendes. Voilà, ça a été pour moi une sorte de testament, c'est-à-dire que moi j'avais des milliers de notes qui partaient dans tous les sens depuis 20 ans. Et je me suis dit, bah voilà, je vais tout mettre là-dedans. C'est une sorte de bible ludique sur la culture Himba. Et comme ça, à partir de maintenant, au moins ça, je l'ai transmis.
En fait, c'est le même livre que vous écrivez, puisqu'il est toujours question des Himba.
Non, ce n'est pas le même livre. Le premier livre parle de moi, essentiellement.
Chez les Himba.
Chez les Himba. Le deuxième parle vraiment de la culture Himba.
Vu par vous ?
Pas que vu par moi, parce qu'en fait, je donne beaucoup la parole aux Himba, donc c'est beaucoup d'enregistrements dans lesquels je traduis, évidemment, puisque les gens ne lisent pas le Himba, mais je ne transforme pas. Donc non, la parole laissée aux Himba, dans celui-ci. Au contraire. Et le troisième a une dimension plus vaste, plus large, parce qu'il intègre aussi l'histoire, la grande histoire.
En plus des livres, vous avez réalisé un film sur les Himba, Solène Bardet.
Oui, en 2012, en fait, c'était une période où les Himba étaient extrêmement filmés. Il y avait parfois 10-15 équipes de tournage en même temps dans la région. Il y avait des équipes de Corée du Sud, Yémen, Brésil, enfin tous les pays du monde envoyaient leurs chaînes. Et moi, depuis 2006, en fait, à chaque fois que j'y retourne, j'essaie de trouver tous les documentaires que j'ai pu trouver sur les Himba et je les ramène aux Himba. Et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que certains avaient déjà joué dans 10-15 documentaires et qu'en fait, ils n'avaient aucune notion de ce qu'était qu'un film, de ce qu'était même une séquence montée. Et donc, la première fois que je leur ai ramené ces films, d'abord, évidemment, ils étaient époustouflés de se découvrir à l'image, comme ça, de comprendre aussi pourquoi un film, que ça racontait quelque chose, qu'il y avait un propos. Ils disaient, mais maintenant, on comprend, avant, on croyait que ces gens-là, ils venaient jouer. Et puis, au fur et à mesure des films qu'ils voyaient, qu'ils découvraient, ben, ils ont commencé à prendre conscience de toutes les erreurs qui étaient dites sur eux. Dire, mais pourquoi on raconte ça sur nous, alors que ce n'est pas le cas du tout, etc. Et leur est venu le désir de faire leur propre film, de reprendre, en fait, la parole, de reprendre le pouvoir sur leur image. Et ça a donné, les Imba font leur cinéma, qui est sorti sur France 5 en 2012. C'est un film qui a tourné, bien sûr, en Namibie, dans plein de campements Imba et ailleurs, mais en Europe aussi, on a eu des prix en Autriche, en Suisse.
Et pour finir, vous avez une association.
Oui, l'association Kova Imba, ce qui veut dire « avec les Imba », et dont l'objectif est très simple. En fait, ce sont les Imba qui décident des projets. Et nous, on essaie de trouver les financements pour, et ensuite de les accompagner, ou de trouver les gens, les Namibiens, qui pourront les accompagner dans leurs projets. Souvent, ces derniers temps, il s'agit de forage, en fait, pour de l'eau, parce qu'il y a un vrai problème d'eau là-bas. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a aussi un projet de centre culturel. C'est les Imba qui sont aux décisions, et nous, on essaie de suivre dans la mesure du possible, du temps, des financements, et voilà.